Bonjour Richard Ferrand.
Bonjour.
Le dîner entre Emmanuel Macron et Jean-Louis Borloo, qui, nous disait-on, dans l'entourage des deux hommes, devait avoir lieu hier soir et qui n'a pas eu lieu. C'était une chimère, il n'en a jamais été question, ou effectivement, un dîner a bien été annulé?
Non, à ma connaissance, si vous voulez, une rumeur, comme ça arrive souvent à Paris, est partie. Et comme toutes les rumeurs, eh bien, elle s'évapore.
Ouais. Ça aurait été bien, cela dit, non ? Un dîner entre Jean-Louis Borloo et Emmanuel Macron.
Oui, vous savez, la question n'est pas tant de dîner, la question est d'avoir des contacts, de pouvoir discuter, etc. Les choses peuvent se faire agréablement autour d'une table, mais elles peuvent se faire aussi.
Ça peut être au petit déjeuner, peu importe, oui, au goûter, enfin bon. Voilà. Jean-Louis Borloo est-il aujourd'hui le soutien emblématique que Emmanuel Macron espère obtenir ?
Non, mais je crois que ça ne marche pas comme ça. Nous ne cherchons pas des soutiens, nous ne courons pas après des soutiens. Nous marchons notre chemin autour d'une offre politique nouvelle, autour d'une démarche nouvelle. Et toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette démarche, dans les propositions que nous faisons, sont évidemment les bienvenus. Vous savez, on parle souvent, et c'est normal, des personnalités les plus connues. C'est assez logique. Mais sans vain, vous savez, quand vous lisez la presse quotidienne régionale, chaque jour, vous constatez que un maire ici, un conseiller départemental, un conseiller régional, bref, que c'est tous les territoires qui se mettent en mouvement autour d'Emmanuel Macron.
Il y a eu deux nouveaux soutiens ce week-end, celui de Daniel Cohn-Bendit et le député socialiste Christophe Carrel. Je vous parlais de la nouveauté. C'est vrai que c'est un terme qui revient souvent. Au-delà de la personne et de l'âge, Emmanuel Macron est très jeune, dans la démarche politique et dans les propositions d'Emmanuel Macron, où est la nouveauté ?
À tous les étages. Vous savez qu'il il proposera jeudi l'ensemble de son projet présidentiel, mais je peux, si vous le souhaitez, vous citer quelques exemples très concrets. Lorsque nous disons qu'aujourd'hui, pour favoriser l'initiative, il faut qu'on sorte d'un système d'assurance chômage pour avoir une allocation chômage pour toutes celles et tous ceux qui, à un moment donné, ont entrepris, soit des professions indépendantes, soit des commerçants, des artisans, des paysans, mais puissent avoir un filet de sécurité et donc accès à une allocation chômage. C'est, par exemple, une grande révolution que de rendre cela universel. C'est dire aussi que, par conséquent, on va diminuer les cotisations qui pèsent sur les salaires, de sorte que les salaires nets vont augmenter. C'est aussi mieux rémunérer le travail. Ça, c'est aussi une marque de fabrique. Lorsque nous disons que pour lutter contre l'échec scolaire, puisque plus de 20% de nos enfants arrivent au CM2 sans avoir acquis tous les savoirs fondamentaux, quand on dit pas plus de 12 élèves devant un maître.
Alors ça, ce sont quelques idées que vous citez qui sont, quelques nouvelles. Mais dans les campagnes présidentielles, il y a toujours des idées nouvelles. Par exemple, là, le revenu universel de Benoît Hamon, c'est une idée nouvelle aussi. C'est plutôt sur la démarche, sur l'offre politique dont vous soulignez la nouveauté. Y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau chez Emmanuel Macron ? Parce que le ni droite ni gauche, ça a déjà été incarné, ça, notamment par François Bayrou.
Ce n'est pas tant le ni droite ni gauche que l'idée qu'il faut dépasser les clivages pour, au fond, se rassembler autour des enjeux essentiels qui sont ceux de notre pays. Et donc, c'est plutôt le et droite et gauche, si je puis dire. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, chaque citoyenne et chaque citoyen est invité à nous rejoindre, quel que soit son parcours jusque-là, quoi. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez des socialistes, des centristes, des gens qui étaient de sensibilité de droite, qui se retrouvent ensemble très concrètement. Songez qu'aujourd'hui, nous avons dépassé le cap des 200 000 adhérents, que plus de 4 000 comités locaux font vivre.
Ce sont des adhésions gratuites, il faut le préciser, parce que
elles sont réelles.
Il y a une démarche, non, mais ça, je ne le nie pas. Mais enfin, ça n'est pas la même que de payer une cotisation pour adhérer à un parti politique, que de le faire gratuitement, quoi.
Ce n'est pas la même, mais si vous songez que dans un grand nombre de partis politiques, la première adhésion coûte 20 euros, ce n'est pas ça qui, au fond, donne le bon thermomètre de la santé de chaque organisation. Nous voyons quoi ? Nous voyons que les réunions que nous organisons, il y en a plus de 1000 par semaine en France, sont très fréquentées, que les citoyens qui souvent ne s'étaient pas intéressés à la politique viennent s'y intéresser. J'étais à Saint-Priest-Thorion avec Emmanuel Macron, c'est une petite commune près de Limoges, il y avait plus de 1000 personnes au meeting que nous avons organisé samedi. C'est vous dire que la mobilisation du pays est réelle, et d'ailleurs ça se lit à la fois dans l'agacement des autres candidats, et ça se lit aussi, même s'il faut se en méfier, mais ça se lit aussi dans l'évolution des sondages.
Alors justement, tiens, à propos des sondages, Emmanuel Macron est repassé devant François Fillon, assez nettement d'ailleurs, dans les intentions de vote. Et sa base électorale se renforce, parce que c'était un point qui était régulièrement souligné, c'est-à-dire la fragilité des intentions de vote de son électorat potentiel. Ils étaient 33% il y a environ 2 semaines à dire « on est sûr de voter pour lui ». Vous êtes maintenant à 54%. Ces deux mouvements, vous les devez en partie au ralliement, ou en tout cas à l'alliance avec François Bayrou. Faire attention aux mots, parce qu'on va le vexer sinon.
Écoutez... D'abord, je ne suis pas moins spécialisé des sondages et je m'en méfie parce que vous savez, commenter les bons sondages, ça vous condamne à commenter les mauvais. Mmh. Donc moi, je ne les commente pas, je les regarde comme des signes qui sont parfois des signes encourageants, parfois des signes d'alerte. Mais ce que je crois, c'est que, au fond, nous marchons, comme nous le disons, et nous voyons que des compagnons de marche s'agrègent et que la dynamique s'amplifie. Alors évidemment, le fait qu'une personnalité comme Monsieur Bayrou ait pris la même route que nous, sans doute que cela vient renforcer, mais je crois que c'est plus tout le travail de fond qui est fait, que petit à petit nos concitoyens mesurent le sens de ce que nous portons, les valeurs que nous portons, les propositions que nous mettons sur la table, et que l'électorat, comme on dit, se cristallise, c'est-à-dire que le nombre de gens qui se disent, qui passent de la sympathie à la confiance pour élire le prochain président de la République, eh bien, augmente. C'est un phénomène, au fond, assez normal, ça montre que notre travail paie.
Oui, Marine Le Pen est toujours devant au premier tour, avec elle une solidité exceptionnelle de sa base électorale, 78%. Vous pensez qu'à un moment donné, les courbes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pourraient s'inverser ?
Il est un objectif que nous poursuivons, et qu'avec tout le mouvement comme secrétaire général, je veux poursuivre. C'est faire en sorte qu'Emmanuel Macron arrive en tête le soir du premier tour. Il n'est pas satisfaisant. De se dire qu'au fond, l'enjeu serait d'arriver au deuxième tour, vaille que vaille. Non. Il faut que les valeurs de la France arrivent en tête devant Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la France qui a peur, c'est la France du passé. Nous voulons porter une France qui n'a pas peur, qui est fière de ses valeurs, et qui, au contraire, embrasse l'avenir avec un certain optimisme. Parce que ce qu'il faut, c'est donner une perspective aux nouvelles générations, aux jeunes. Il faut redonner goût, au fond, à la France et à ses atouts. Et sortir de cette idée que nous serions tout le temps dans une peur qui ferait se recroqueviller sur nous, être hostile aux autres, etc. Il faut croire à l'Europe. Il faut une Europe qui fonctionne, une Europe continent qui soit puissante face aux grands continents que sont les États-Unis, évidemment la Russie et la Chine. Donc, tous ces grands chantiers qui ouvrent une perspective historique et très concrète pour les Françaises et les Français, c'est celle-là qui doit justifier qu'Emmanuel Macron arrive en tête le soir du premier tour.
Le programme économique d'Emmanuel Macron qu'il a présenté, si vous deviez le qualifier en un mot, vous diriez quoi ? Certains disent que c'est du François Hollande qui se serait assumé.
Bien, vous savez, ce qui est intéressant dans ce que nous faisons, c'est que tous ceux qui veulent étiqueter ce qu'on fait, chaque fois, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que vous avez des propositions qui sont très clairement des propositions, on va dire, de tradition de gauche, et d'autres qui viennent de plus de la tradition libérale. Moi, j'ai envie de dire que c'est un programme progressiste, c'est-à-dire qui, au fond, veut adapter notre pays à l'époque et à notre temps, aux défis du moment, que nous voulons aborder les grands chantiers qui sont les transitions écologiques, numériques, de la formation pour tous. Bref, on entre véritablement dans le 21e siècle. C'est maintenant que ce projet est sur la table et c'est pour ça qu'il suscite tant d'intérêt.
Merci Richard Ferrand.
Merci à vous.
Bonne journée.